voix du Kaizen.
Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.
Dans le cadre de cette troisième saison d'émission La Voix du Kaizen, je rencontre Catherine Dumonteil-Crémer, consultante familiale et formatrice aux techniques d'éducation bienveillante. Avec une carrière au service du lien parent-enfant, Catherine Dumonteil-Crémer est auteure de plusieurs ouvrages sur l'éducation respectueuse, dont « Élever son enfant autrement », souvent qualifié de la Bible de l'éducation alternative. Bonjour Catherine, merci d'être avec nous pour cette nouvelle émission La Voix du Kaizen. Donc Catherine, est-ce que tu pourrais peut-être dans un premier temps simplement te présenter ?
Moi je suis un ancien travailleur social, j'ai travaillé comme directrice d'un centre social dans les quartiers nord de Marseille. Je travaillais énormément, à un moment donné j'ai eu mon premier enfant et ça a changé ma vie, ça a bouleversé ma vie. Donc les 8 premiers mois après la naissance de mon enfant, j'ai continué à travailler dans ce centre social et puis je suis devenue enseignante pour travailler moins et m'occuper de ma fille. Puis j'ai eu ensuite un deuxième enfant et un troisième enfant qui m'ont énormément appris et fait grandir, et je me suis confrontée au défi de la parentalité. C'est-à-dire que j'ai tout de suite vu des difficultés là-dedans. Je ne voulais pas reproduire l'éducation que j'avais reçue sur mes enfants. Du coup, je me suis posé beaucoup de questions, j'ai senti beaucoup de violence remonter en moi, je voulais pas taper mes enfants. Je me suis dit, bon là, il y a quand même une question d'importance à réfléchir, à soulever. Peut-être qu'il faut chercher des outils, des alternatives, et ça a été un petit peu ma mission en fait. Ma mission, ça a été ça, trouver des alternatives. Alors j'ai commencé à créer une association qui s'appelle la Maison de l'Enfant. J'ai créé un énorme groupe de discussion sur Internet qui était le plus gros groupe de francophones à l'époque. C'était en 1999, Parents Conscients. Donc c'était vraiment quelque chose de passionnant. Et ensuite, petit à petit, moi j'avais mes enfants déscolarisés, donc je travaillais de chez moi. Et puis après, on a eu quand même des élections avec une frontale Le Pen-Chirac. Et là, je me suis dit, là, j'écris un livre sur l'éducation alternative. J'aime pas le mot d'éducation, mais je pense que tout le monde comprend ce que je veux dire. Donc j'ai proposé un projet aux éditeurs à la plage, j'ai fait un plan et un mois après ils m'ont dit oui. Donc c'est vraiment pour moi c'est vraiment quelque chose de politique, la question de l'accompagnement des enfants. C'est comme ça que j'ai écrit mon premier livre qui est sorti en 2002, Élever son enfant autrement, et qui a été réédité plusieurs fois, parce que pour moi c'est vraiment les enfants, l'accompagnement des enfants. Les enfants c'est la société de demain et on a vraiment à réfléchir à ce qu'on fait avec nous et avec eux, et cette succession de détails qu'on vit chaque jour en tant que parents, qui nous agacent, qui nous fatiguent, qui nous épuisent, qui quelquefois nous réjouissent, forment les fondements de la société de demain. Donc je trouve que c'est vraiment un sujet d'importance.
Donc toi Catherine, en fait, quand tu as commencé à t'interroger sur la parentalité, sur comment élever ses enfants, tu t'es retrouvée face à un vide.
Tout à fait. C'était tout à fait un vide. En 88, j'ai eu mon premier bébé. J'avais très envie de communiquer avec d'autres parents, mais à l'époque, on n'avait absolument rien. Je crois que les premières mesures de soutien à la parentalité, c'était en 99. L'État a mis en place les REAP, les réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents. Mais ça restait très traditionnel, très classique, c'est-à-dire que l'enfant, d'une certaine manière, on le voit comme une personne qui doit obéir aux injonctions des adultes et se conformer à ce qu'on lui demande. Donc, moi, je vois ça plutôt d'une autre façon. Je pense que l'enfant a un potentiel d'empathie énorme, qu'il est bon à la base. En tout cas, il est à un point d'équilibre à la naissance et que peut-être que notre rôle, c'est de préserver ça et de l'accompagner en lui posant des limites, bien entendu, d'une certaine façon, mais en respectant sa dignité. Et évidemment, ça dépend où on place la dignité de l'être humain. C'est pour ça que le mot éducation, je le trouve un peu paradoxal dans ce contexte. Je préfère le mot accompagnement parce que l'éducation signifie finalement je vais formater, je suis un peu le parent potier, je considère que mon enfant est un bloc d'argile et puis je vais le modeler comme je le souhaite. On vient de ces de générations de parents potiers, alors on peut aussi se dire que on pourrait devenir des parents jardiniers et puis simplement arroser la plante, la laisser pousser, on n'a pas besoin de tirer dessus, elle va se développer tout à fait merveilleusement, il suffit de combler ses besoins et vraiment ça marche très très bien.
Et cette notion de sac vide aussi, des fois on l'enfant l'enfant est assis sur un banc d'école et on le remplit de connaissances, comme on remplirait un sac.
Sans vraiment se soucier de ce qu'il a envie d'apprendre ou pas, de ce qu'il veut. Étant donné que nous avons en famille connu la déscolarisation, c'est vrai que la question de l'apprentissage a été très importante, qu'elle a été réfléchie avec ma fille aînée. J'étais beaucoup, en tant que parent, très soucieuse de l'apprentissage, de son apprentissage. Je me disais, bon, faut qu'elle travaille tous les matins, c'est super important, il faut qu'elle ait le niveau, etc., etc. Et puis, au fil des enfants, je me suis rendu compte que, ben, non, pas forcément. Il suffit que l'élan, un élan de vie, un désir d'apprendre ne peut émerger que s'il n'est pas mis sous pression. À partir du moment où on est sous pression pour apprendre quelque chose, où il faut, il n'y a pas de désir qui émerge, quoi. Et je crois que dans toute situation, hein, au niveau de la créativité, l'apprentissage, c'est exactement pareil. Donc, on en est arrivé à ce qu'on appelle unschooling, finalement, où les enfants font ce qu'ils ont envie de faire. Ça me fait penser à une anecdote que j'ai entendue relater. Tu sais peut-être que je suis aussi éducatrice Montessori, mais c'est quelque chose que j'ai aussi abandonné, parce qu'il y a aussi cette idée de proposer quelque chose et finalement l'enfant, bon, s'il le veut pas, c'est compliqué. Mais en tous les cas, je sais que dans une école Montessori, une personne qui visitait l'école disait, bah, dans le fond, ici, vous faites ce que vous voulez. Et l'enfant avait répondu, non, nous voulons ce que nous faisons. Et je pense que c'est extrêmement juste. Ça m'a beaucoup marqué, cette anecdote. Effectivement, c'est très important pour apprendre de vouloir ce que l'on fait, ce que l'on choisit de faire, ce que l'on choisit d'apprendre.
Catherine, devant moi, j'ai une personne ressource incroyable qui est passée par plein de chemins différents, qui a compris, qui a vu, qui a lu énormément. D'ailleurs, on le voit dans cet environnement-là autour de nous, des centaines de livres. Je vais peut-être d'abord revenir dans le temps, en 1990, quand tu te retrouves face à ce vide et que tu te rends compte que finalement aucun outil existe, hein, ou très peu. Est-ce que tu peux me faire le parallèle entre avant et maintenant? Parce qu'aujourd'hui, c'est très tendance.
Oui,
aujourd'hui, il y a quand même une évolution incroyable par rapport aux questions qu'on se pose.
Mais oui, tout à fait. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est complètement tendance. Mais j'espère que ça ne restera pas qu'une tendance. Mais à cette époque-là, pour te donner un ordre d'idée, quand je démarre la liste parents conscients, il y a 50 personnes qui sont inscrites dessus. Donc, tu vois, le démarrage n'est pas fulgurant. Donc, il y a une espèce de... Alors, c'est sûr que ces 50 personnes, ce sont des personnes un peu particulières, avec des réseaux qui sont vraiment très intéressées, assez militantes, etc. Mais n'empêche que à cette époque-là, c'est extrêmement compliqué. Et c'est un moment où j'ai conçu un programme pour les parents, un programme de formation parentale. Et c'est le premier programme francophone de formation à la parentalité, tu vois, avec des idées comme on utilise le jeu pour améliorer le lien à l'enfant, on pose les limites autrement, on les écoute, on cerne leurs besoins, etc. Donc, il y a pas grand chose, en fait. Les Américains ont déjà travaillé sur la question. Et puis, si on regarde bien, si on réfléchit bien, dans les années 70, il y avait déjà Carl Rogers, qui est quand même un bienfaiteur de l'humanité, tu vois, qui avait comme élève Marshall Rosenberg et Thomas Gordon. Mais en France, au niveau francophone, on n'avait pas grand-chose, quoi. C'est vrai qu'il y avait déjà Alice Miller, Olivier Morel essayait aussi dans son coin de militer, voilà. Mais aujourd'hui, il y a, je crois, aujourd'hui, une sorte de frénésie, d'explosion. C'est à la fois... C'est extraordinaire en même temps, tu vois. Je pensais l'année dernière, quand la loi est passée, puis finalement elle a été retoquée, cette loi contre la violence éducative. La loi contre la violence éducative ordinaire, qu'on appelle ordinaire, contre la fessée si tu veux, voilà. Et puis contre les violences psychologiques. Elle est passée le 22 décembre 2016. Et je me suis dit, je pensais pas que de mon vivant, je verrais la loi, j'aurais vu ça, tu vois. Et finalement, oui. Et puis en janvier, elle a été retoquée, mais elle passera. C'est une question de forme, c'est pas une question de fond. Donc aujourd'hui, il se passe des choses. Il y a une conscience qui se développe. Je pense que le secrétariat d'État à la famille a publié une sorte de livret pour les parents en mentionnant que la fessée est pas une bonne chose, l'autoritarisme n'est pas une bonne chose. Donc là, on vit des bouleversements. Et puis bon. Il y a une multitude de blogueurs qui s'intéressent au sujet, de formations, c'est absolument incroyable. Mais dans tout ça, on reste quand même parfois très éloigné de l'aspect atteinte à la dignité de l'enfant.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
Comment ça se fait qu'aujourd'hui il y a autant de formations, d'outils, de magazines, de youtubeurs, de blogueurs qui s'intéressent à la question ?
comment ça se fait? Eh ben, écoute, je pense que ça, c'est de plus en plus médiatisé. D'abord, il y a des livres qui ont eu un succès extraordinaire, vraiment très important, celui de Catherine Guéguin, notamment, sur le fonctionnement du cerveau de l'enfant. Donc ça, ça a été, je pense, une étape importante. Et puis, la société civile s'organise. C'est vrai que l'OVO, je trouve, a fait des actions. L'OVO est l'Observatoire de la violence éducative ordinaire. C'est une association qui s'est énormément développée, qui fait beaucoup d'actions et d'actions politiques directement liées, tu vois, au secrétariat d'État à la famille. Il y a eu aussi des campagnes télévisuelles avec des petits spots. Je pense que petit à petit, tout ça est en train de donner des résultats. Chacun dans son coin finit par... Peut-être qu'on atteint ce point de bascule, tu sais, ce fameux point de bascule où, hop, tout à coup, ça y est, toute la société est concernée. Et là, je crois que vraiment toute la société est concernée, même s'il y a énormément de travail à faire.
Catherine, on va s'adresser aux parents et on va leur donner des conseils. Parce que les parents, là, on se pose tous des questions par rapport à l'éducation de nos enfants. Comment on fait quand on est parent? Quelles sont les bonnes questions à se poser? Et quels sont les bons outils qu'on peut trouver pour pouvoir, je ne vais pas dire le mot éduquer, mais élever son enfant, oui, accompagner son enfant le mieux possible.
C'est vraiment une question de grande ampleur là que tu me poses. Je pense que la première, peut-être une des premières choses est de s'informer quand même avant d'accueillir un bébé. Et puis peut-être dans le couple, essayer de discuter de la manière dont on va accompagner cet enfant. Comment on va faire? Comment on va lui poser des limites? C'est vraiment des choses qu'on ne discute pas en couple. Tout se fait de façon implicite. On part du principe que... tout ça va se régler très bien, de façon souple. Enfin, on ne sait pas trop comment ça va se passer, mais c'est sûr, il va se passer des choses. Donc, quand on accueille un enfant, le premier enfant, il faut savoir que c'est celui qui va ouvrir la porte de cette chambre où se trouvent toutes nos vieilles blessures, tu vois, tous nos vieux monstres. Il va réactiver constamment toutes nos vieilles blessures. Ça, c'est un sale coup de la mémoire traumatique qui reste finalement en nous avec toutes les circonstances difficiles et qui fait que quand on retrouve un élément commun entre la situation présente et la situation passée, on rejoue complètement ce qu'on a vécu dans le passé. Donc c'est vraiment très compliqué. Et ce sont des choses auxquelles tous les parents font face et parfois ça les désespère. Un bébé qui pleure la nuit peut être secoué si on a été secoué soi-même en tant que bébé. Et on sait très bien que ça a des effets traumatisants sur le cerveau. Donc ça va être comme ça, l'enfant grandissant va réveiller un peu toute notre histoire d'enfant. Donc il va nous falloir à la fois trouver des astuces pour survivre au quotidien, pour essayer d'arriver à l'accompagner sans le blesser, on va dire, et en même temps essayer de faire face à notre propre histoire, ce qui va franchement nous faire faire un chemin vers une vitalité renouvelée. Vraiment, quand on voit la parentalité comme ça, on se retrouve, on récupère notre vie. C'est pas rien, vraiment. Donc, un enfant, finalement, quand on accueille un enfant, il nous permet ça, parce que sans arrêt, il va appuyer là où ça fait mal. Voilà, il appuie. Donc, je crois que ce qu'on peut faire, c'est donner un simple protocole pour la pose de limite, qui est un sujet qui intéresse tout le monde en général, à partir du moment où l'enfant a 2-3 ans, là, qui commence à se déplacer, à faire des trucs qu'on ne voudrait pas qu'il fasse. On peut simplement se dire, se poser la question suivante. Est-ce que mon enfant, s'il a un comportement inadapté, ou inapproprié plutôt, Est-ce que par hasard il aurait un besoin non comblé? Est-ce qu'il a besoin de quelque chose? Est-ce qu'il a besoin de jouer? Est-ce qu'il a besoin de mon attention? Il a peut-être soif, il a peut-être sommeil, il a peut-être peut-être il a passé une mauvaise journée à l'école ou à la crèche. Bon, une fois qu'on s'est posé cette question et qu'on répond aux besoins, si le comportement inapproprié disparaît, très bien, mais parfois c'est pas si simple. Il va falloir employer des moyens différents. Donc on va essayer de chercher, de mettre en place un peu toute notre créativité pour trouver des solutions, je dirais, élégantes et créatives à chaque fois, elles vont être assez uniques. Parfois, quand un enfant de 2 ans veut traverser la rue, la meilleure des choses à faire, c'est de l'empêcher de le faire avec force, mais sans violence. Hein. Tu en conviendras avec moi, on ne va pas le laisser traverser la rue, surtout une rue où il y a beaucoup de circulation. Mais par exemple, on ne va pas, comme le faisaient nos parents, lui donner une claque. On va lui dire « j'ai eu peur ». Peut-être qu'on va lui faire part de nos sentiments. Là, vraiment, j'ai eu peur. Et puis, c'est dangereux, les voitures. Je ne suis pas d'accord pour que tu traverses comme ça. Mais ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas penser que parce qu'on le lui explique, il va en tenir compte. C'est un peu l'erreur qu'on fait, si tu veux. À 2 ans, là, dans... Catherine Guéguin l'a montré, mais on l'avait déjà observé, un enfant n'est pas capable de tenir compte des injonctions verbales et des explications qu'on lui donne. Mais cependant, il les entend et il les enregistre. Il va falloir attendre sa 7e année, voire même sa 8e année, pour qu'il ait le cerveau, un cerveau qui lui permette de tenir compte de ce qu'on lui dit. Voilà. Donc, parfois, les parents vont dire « je suis pas d'accord pour que tu traverses » et ils vont s'attendre à ce que la prochaine fois, la situation ne se reproduise pas. Dans les faits, peut-être que ça se reproduira pas, mais il faut penser que la pose de limite, c'est toujours à remettre, c'est un peu toujours sur le métier, remettez votre ouvrage, tu vois. C'est pas en une fois qu'on va régler le problème, c'est peut-être en 2 ou 3 fois ou 4 fois, mais l'enfant va très bien comprendre, d'autant plus qu'il se connecte à notre, je dirais, à notre crainte, à notre intention, à ce qu'on ne voudrait pas qu'il fasse.
Il revient quand même cette notion de limite, comment les poser, ces limites.
Eh bien, c'est une partie du problème, c'est d'essayer d'examiner le besoin. Ensuite, comprendre aussi que le fait de dire non, c'est pas interdit, hein. On a à dire non à un enfant. Par exemple, au moment de Noël, bon, on n'est pas dans la saison de Noël, mais il y a beaucoup de jouets dans les grandes surfaces et les enfants ont juste envie de tout acheter, de tout avoir, et on va leur dire non. Si mon enfant a un comportement désagréable avec un autre enfant, il lui tape sans arrêt la tête, je vais l'empêcher de le faire. Je vais me manifester. Alors, selon son âge, je vais l'empêcher physiquement de le faire et il va probablement faire une crise de rage si je fais ça. C'est aussi un élément à prendre en compte, se dire que les émotions sont des processus physiologiques de guérison et que l'enfant, lorsqu'il fait des crises de rage, de colère, des crises de larmes ou qu'il rit à gorge déployée, ça l'aide vraiment à relâcher les tensions qui sont en lui. Donc on va lui dire non, mais on va accepter la manifestation d'insatisfaction qui arrive derrière, tu vois. Donc on va l'écouter pleurer parce qu'il est triste, parce qu'on lui a dit non pour une activité, un jouet, un je sais pas quoi, j'en sais rien. On a dit non, il est insatisfait, il pleure. C'est normal. Les pleurs lui permettent de récupérer son point d'équilibre finalement, tu vois. Donc ce sont des éléments qui nous ont manqué en tant qu'enfants. Nos parents les avaient pas. Nous, nos parents, ce qu'ils nous disaient, c'est « pleure, tu pisseras moins » ou « tiens, je t'en donne une, comme ça, tu sauras pourquoi tu pleures ». Enfin, tu vois, c'était un peu comme ça que ça se passait, quoi.
Mais alors, quelle est la bonne attitude à avoir en tant que parent quand son enfant pleure et ne s'arrête plus ?
Il s'arrête forcément. Et puis, l'attitude à avoir, c'est l'accueillir, être avec lui, l'écouter. L'écouter pleurer, l'écouter, voilà. Il n'y a pas besoin de parler, d'ailleurs. Un contact physique, ça suffit. Quelquefois, je trouve que les pleurs, c'est pas ce qu'il y a de plus difficile à écouter. Pour moi, ce qui est plus difficile à écouter, c'est la crise de rage. Typiquement, le parent qui se trouve au supermarché, c'est une situation assez classique. L'enfant veut des bonbons, le parent veut pas les acheter. Tout à coup, il va se rouler par terre. À 2 ans et demi, 3 ans, ils font ça, les petits, hein. Ils se roulent par terre, ils hurlent, ils tapent partout. Alors, les parents, ça leur fait dire, ouh là là, le mien, il a de la volonté, hein. Mais je me demande si je vais pas l'emmener chez un psychologue. Et puis après, quand on est plusieurs parents d'enfants de 2 ans et demi, 3 ans, on se rend compte que, ah ben oui, moi, le mien, il fait pareil. Ah mais oui, moi aussi, le mien fait pareil. Oui, effectivement, c'est typique du comportement d'un enfant de 2 ans et demi, sauf que la société, enfin, les clients vont regarder le parent avec, en faisant parfois des commentaires assez dépréciatifs sur l'enfant et sur le comportement du parent qui voudrait écouter la crise de rage. Donc, ce que doit aussi apprendre le parent, c'est emmener son enfant en crise dans un endroit où il pourra l'écouter en toute sérénité, je dirais. Parce que les parents se sentent facilement jugés. Décider d'élever son enfant d'une autre manière, c'est vraiment aller contre ce conditionnement. Ça veut dire que tout à coup, on devient complètement visible. Et ça, c'est très douloureux, finalement. On est vu comme anormal, hein. Enfin, on fonctionne pas comme voilà. Donc là, la parentalité positive est en train de devenir la norme. On ne peut que s'en réjouir.
La voix du Kaizen, une émission de Kaizen Magazine. Kaizen Magazine à retrouver en kiosque tous les 2 mois.